Je ne les voyais plus et je n'entendais rien. Mais pour un Comanche, les retrouver ne serait qu'un jeu. Je montai la pente en courant aussi légèrement que je pus jusqu'à l'orée de la Pinède. Je m'arrêtai, j'écoutai. Il me sembla percevoir plus haut un bruit de pas dans les pierres. Je repris ma course en rasant les fourrés. J'arrivai à la fin de la première Pinède au bord d'un plateau. On y avait jadis cultivé des vignes. Des sumacs, des romarins, des cades les avaient remplacés. Mais cette végétation n'était pas très haute et je vis au loin la casquette et le béret. Ils avaient encore le fusil à l'épaule et marchaient toujours d'un bon pas. Près d'un grand pin, ils s'arrêtèrent. Le béret descendit sur le flanc du coteau vers la gauche, tandis que la casquette continua tout droit. Mais elle montait et plongeait tour à tour comme une casquette qui marche pas à pas sur la pointe des pieds. Je compris que la chasse était commencée. Mon cœur battit plus vite, je retins mon souffle et j'attendis. Une détonation puissante éclata soudain et se répercuta longuement en sautant d'un écho à l'autre contre les appiques du vallon. Je courus au pin le plus proche et j'y grimpai, épouvanté. Je m'assis à califourchon sur une grosse branche, craignant l'apparition subite d'un sanglier blessé, celui-là même qui avait dévidé sur 10 mètres les entrailles du pauvre manchot. Comme rien ne paraissait, je craignis alors qu'il ne fût en train d'éventrer mon père, et je priai Dieu, s'il existait, de le diriger plutôt sur mon oncle, qui croyait au paradis et mourrait par conséquent plus volontiers. Mais le béret apparut sur ma gauche, au-dessus d'un cadre. Il tenait en l'air à bout de bras un oiseau noir de la taille d'un petit pigeon, et il criait « C'est un beau merle !» La casquette émergeant d'une forêt de genêts vint rapidement vers lui. Ils semblèrent se concerter, puis se séparèrent de nouveau. Je me laissai glisser sur le sol et je tins conseil avec moi-même. Fallait-il descendre derrière eux au fond du vallon? La hauteur des broussailles m'empêcherait de voir la chasse. Et d'autre part, comme l'avait dit mon père, je m'exposais à recevoir par erreur un coup de fusil. Tandis que si je continuais à suivre la crête juste au bord de la barre, mais derrière les térébintes, je pourrais tout voir sans être vu. De plus, au cas où il blesserait un sanglier, je serais hors de ses atteintes, et je pourrais même achever le monstre en faisant tomber sur lui des blocs d'orchers. Je filais donc à travers les kermesses qui griffaient mes mollets, les cades et les genévriers. Je fis d'abord un assez long détour sur le plateau, puis je me glissai sous le fourré et je parvins au bord de la pique. Ils étaient au fond d'un large vallon de roches bleues, au milieu le lit à sec d'un ruisseau des pluies. Peu d'arbres, mais des fourrés d'argiras qui leur arrivaient à la ceinture. De mon côté, mon père marchait à mi-pente. Il tenait son fusil pointé devant lui, la crosse sous le coude, la main droite sur la gâchette, la main gauche sous le ponté. Il avançait à pas prudent, le dos voûté, enjambant les broussailles. Il était beau à voir, beau et menaçant, et je fus assez fier de lui. Sur la pente d'en face, l'oncle Jules suivait un chemin parallèle. De temps à autre, il s'arrêtait, ramassait une pierre, la lançait au fond du vallon et attendait quelques secondes. Je les voyais bien mieux que si j'avais été avec eux. À la troisième pierre, un gros oiseau jaillit du fourré et fila comme une flèche vers l'arrière de la chasse. Avec une rapidité merveilleuse, l'oncle épaula, visa, tira. L'oiseau tomba, suivi par quelques plumes qui descendirent lentement dans le soleil. Mon père, au pas de course, et sautant par-dessus les épines, elle a ramassé le gibier et le montra de loin à l'oncle qui cria « C'est une bécasse! Mettez-la dans votre carnier et reprenez votre ligne à 20 mètres de la falaise !»